Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Elle débrief.
Elle débrief.
Élodie Petit
et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile
avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, le podcast que vous écoutez en douce mais qui vous en apprend bien plus que le JT. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours été fascinée par les sectes, une fascination évidemment malsaine. J'adore écouter Ondelatte raconter l'histoire de la secte de Waco. Je lis tout ce que je trouve sur la secte baptisée La Famille qui officie en plein cœur de Paris et je pourrais vous faire un épisode pour vous raconter comment des jeunes et sexy mormons ont essayé de me recruter dans mon propre immeuble. Oui, je sais, c'est pas une secte, mais bon. Je suis Élodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr, et non, je n'ai pas cédé, je ne fais partie d'aucune secte, si ce n'est celle de l'amour. Un peu comme celle qui m'accompagne chaque semaine, Elisa Casson, journaliste forme et beauté.
Waouh, salut.
Quelle intro.
Ah, j'adore.
L'information ne vous a pas échappé. La 75e édition du Festival de Cannes a été lancée il y a quelques jours, et parmi les stars les plus attendues, Tom Cruise qui présente Top Gun, la suite des années après. Mais on n'est pas là pour faire une critique du film, je ne l'ai pas vu, je suis même pas sûre d'aller le voir. On est là pour décrypter la façon dont la scientologie s'est infiltrée dans le show business depuis les années 70-80. Pour en parler, nous serons avec une experte en la matière, j'ai nommé Marie Telling, qui était à mes côtés pour l'épisode consacré à Will Smith, lui aussi scientologue, même s'il ne l'a jamais confirmé publiquement. Salut Marie.
Salut Elodie, je ne sais pas si je suis une experte, en tout cas je le suis.
Non mais t'es très excitée pour aller te faire ce podcast. Elle est arrivée, elle a ouvert la porte, elle avait ses fiches, elle a dit « j'ai tout ça sur la scientologie !»
Je suis une experte depuis cet après-midi.
Voilà. Question, Marie, Elisa, vous êtes déjà allées au Festival de Cannes ?
Non.
Ah, alors.
On est dépouilleuses.
Non, pas du tout. Mais moi, j'y vais tous les ans ou presque. Et les premières années, avec ma collègue Khadija, que je salue, de notre hôtel pour aller jusqu'au Palais des Festivals, on devait toujours emprunter une petite rue où on se faisait systématiquement arrêter par un groupe de jeunes. Ils portaient tous un t-shirt de la même couleur. Je crois que c'était rouge ou orange. Ils nous proposaient un verre d'eau et ils nous demandaient si on voulait faire un test de personnalité à l'intérieur d'une boutique qui est à Pignon-sur-Rue. Alors quand on est journaliste pendant le Festival de Cannes, on n'est pas en train d'enfiler des perles, donc on avait clairement autre chose à faire que d'aller faire des tests pour savoir si on était bien dans notre peau. Et puis un jour, il y a d'autres journalistes qui nous ont expliqué qu'il s'agissait en fait de la scientologie qui essayait de recruter des membres pendant le festival. Et je comprends, hein, c'est des belles proies parce que là, on a toutes les personnalités du monde du cinéma, des producteurs, des acteurs, on a tout le gratin des médias du monde entier, que du beau monde. Et après tout, pourquoi pas, hein, parce que si sur les marches du Festival de Cannes, on a Tom Cruise, Juliette Lewis ou John Travolta qui ratent pas une occasion de dire, de faire la promo de la scientologie, la secte ne va pas se priver d'essayer de séduire le public. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, parce que c'est important de le faire avant de lancer cet épisode, qu'en France, la scientologie est une secte, mais qu'aux États-Unis, c'est une religion, tout comme en Espagne ou au Portugal ou dans plein d'autres pays européens. En France, elle est très surveillée et en 2013 encore, elle a été condamnée par la justice pour escroquerie. Voilà, c'était la petite parenthèse légale. Retournons à Cannes. Donc en 2021, pendant le festival, il n'était plus là. Et j'ai vérifié, à la place, il y a une boutique de frozen yogurt.
une autre secte.
Et je connais personne qui se soit arrêté pour faire le test, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il s'y raconte. Par contre, j'ai regardé sur Internet. Et sur YouTube, vous pouvez voir des reportages qui suivent en France la scientologie. On les voit à Paris ou ailleurs, dans des grandes villes, arrêter les passants, les faire pénétrer dans la boutique et ils vous font répondre à des questions hyper intimes comme « Est-ce que vous avez un problème avec votre sœur ?» Et si vous êtes chanceux, on vous fera aussi passer le test de l'électromètre. Donc c'est deux, comme des petites canettes de coca en métal qu'on vous met dans les mains et elles sont censées capter vos émotions. Alors ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Et si le scientologue a bien fait son boulot, vous passerez à la caisse et vous repartirez avec un livre censé changer votre vie qui s'appelle « La Dianétique, la puissance de la pensée sur le corps ». Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, on ne peut pas commencer cet épisode sans retracer le parcours de Tom Cruise, qui est l'ambassadeur le plus connu de la scientologie, dont on dit souvent qu'il est le numéro 2 de la secte, même si lui a toujours nié. Elisa, raconte-nous comment Tom Cruise en est arrivé à ce rôle de porte-drapeau.
Déjà, je pense que moi, je tomberais dedans direct. Parce que là, t'en parlais, j'étais là, je veux faire le test.
Attends, excuse, j'aimerais juste dire quelque
chose, c'est vrai.
Un truc très drôle à dire. Comme vous le savez, il y a deux semaines, l'épisode, on était à Los Angeles et on est passé devant le centre de scientologie et on s'est dit, oh, on savait qu'on allait tourner cet épisode. Et on s'est dit, est-ce qu'on y va? Sachant que le jour en question, on avait sur nous tout notre matériel de tournage du podcast
on
et on s'est dit, c'est chaud.
Ouais.
Parce que s'ils pensent qu'on est là pour tourner à leur insu, on va avoir des problèmes. Et on s'est dit, est-ce qu'ils arriveraient à nous retourner?
Franchement, moi, je pense que oui. Mais okay. Bon,
moi non,
tu sais que tu peux aller dans le 17e. Il y a boutique scientologie près de chez moi. Je passe souvent devant.
Bah, près de chez moi aussi, du coup.
Ah bah oui.
Oh là là, me lancez pas.
Allez, vas-y, Elisa.
Alors, Tom Cruise, faut savoir que c'est sa première femme, Mimi Rogers, qui initie l'acteur à la religion. Elle a été missionnée pour ça puisqu'elle s'occupait du centre de formation de l'église d'Hollywood et elle était à la tête du projet stratégique Célébrité, qui consistait en fait à recruter des stars pour qu'ils puissent devenir à leur tour des promoteurs. Alors, pourquoi Tom Cruise? Déjà parce que c'est une superstar. Et aussi parce qu'ils ont, ont détecté chez lui quelques fêlures.
Oui.
Voilà. C'est un homme blessé. Un petit peu. En fait, enfant, bon, c'est pas du tout drôle d'ailleurs, il a été diagnostiqué dyslexique. Il se retrouve dans des classes de remise à niveau à chaque fois, il se sent exclu. Et en fait, même s'il a baigné dans une éducation catholique, le message de la Sciento, oui, je vais dire Sciento.
Oui, voilà. Oui, tu peux.
Je me permets. C'est un peu, vous êtes l'élu, vous ne serez plus jamais seul. Et bah, évidemment, lui, il tombe dedans, ça le séduit.
Ce que tu oublies de dire aussi, c'est qu'il a reçu donc une éducation très catholique et lui-même, à un moment, s'est dit « je vais devenir prêtre » et pendant un an, il a fait des études de théologie dans le but de devenir prêtre.
Comme quoi, il réussit.
C'est pas rien. Il a toujours été très religieux.
Ouais.
Il a toujours été
quoi.
Très religieux. Ouais. Ouais. Mais il réussit quand même bien à embarquer les gens.
Ouais.
Donc au tout début de sa carrière, l'acteur n'hésite pas à vanter les mérites de la scientologie dans chacune de ses interviews et tu l'as dit, il devient très vite l'un des ambassadeurs numéro un. On l'écoute.
Je pense que c'est un privilège de vous appeler un scientologue et c'est quelque chose que vous devez earn. And because a Scientologist does, he or she has the ability to create new and better realities and improve conditions.
Dans cet extrait, Tom Cruise explique que c'est un privilège de faire partie de cette religion et qu'en gros, les scientologues bah, sont les meilleurs, ils sont capables de réaliser de grandes choses, d'améliorer leurs conditions de vie. Tu vois, moi, ça me donne envie, là.
Oh là là, Elisa.
Elisa, à la fin de ce podcast, elle va aller direct à la scientologie.
Alors après son divorce avec sa première femme, Tom Cruise se marie avec Nicole Kidman. Ensemble, ils adoptent deux enfants, Isabella et Connor. Et puis, après quelques années, le couple divorce. Leur séparation est rendue publique. On parle de différents irréconciliables. Bon, bah, en vrai, c'est à cause de la Sciento.
Oui.
Nicole Kidman est catholique. Elle ne veut pas que ses enfants suivent les préceptes de la scientologie. Elle devient donc un problème aux yeux de la secte. Tom Cruise décide de la quitter et d'emmener avec lui ses enfants.
On en parlera tout à l'heure, mais il y a des détails sur la façon dont ça s'est fait, le
divorce. Et c'était très difficile. Après sa relation avec Penelope Cruz, Tom Cruise annonce son troisième mariage sur le plateau d'Oprah Winfrey. C'est
le moment le plus gênant de la télé. Ouais. Ouais.
C'est très culte, il saute de partout, il hurle, il explique qu'il est très amoureux, il est surexcité. On l'écoute.
Really? Something happened to you! Something happened to you!
I'm in love.
C'est tellement culte que ça a donné lieu à une parodie dans Scary Movie 4.
Alors, Scary Movie, on pourra en parler un jour, mais moi, c'est une saga, mais je suis très fan.
C'est pour ça que je sais.
Mais le 4, j'aime pas trop.
Ah, ok.
Mais,
ah oui, tu te souviens de la différence entre le 3 et le 4.
Il y a Denise Richards et Martin Sheen.
Oh là là, ah ouais, d'accord.
Ah ouais, je m'en...
C'est ta secte à toi.
J'adore.
Donc, pour son troisième mariage, l'acteur va faire tout en fonction de la scientologie. D'ailleurs, on dit que c'est la scientologie qui a choisi l'épouse Katie Holmes. On l'a choisi parce que c'est quelqu'un de gentil, qui ne fera pas trop de bruit. Bon, bah, la suite, on la connaît. Elle divorcera pour les mêmes raisons que Nicole Kidman et réussira à s'échapper de la secte avec sa fille. On en parlera un peu plus tard. Côté pro, la scientologie a aussi un véritable impact sur la carrière de Tom Cruise. En 2006, par exemple, la société de production Paramount rompt son contrat avec l'acteur à cause de ça. Parce que depuis son arrivée dans la secte, Tom Cruise, il a gravi des échelons. Il serait même aujourd'hui l'un des brins droits des dirigeants, tu l'as dit tout à l'heure. Ça lui a valu quelques frasques, par exemple en 2004. Il explique que pour lui, la psychiatrie ne devrait être interdite. Donc c'est un peu... pas très très sympa. L'année suivante, alors qu'il doit faire la promotion de son nouveau film La Guerre des Mondes, réalisé par Spielberg, l'acteur, en fait, il profite des interviews pour parler de la scientologie et de son mariage, mais pas du tout du film. Donc Spielberg était énervé.
Est-ce que c'est
comprend.
Sur la sortie de ce film ou sur un tapis rouge, il s'est fait asperger avec un pistolet à eau?
Oui, c'est ça.
Il n'a pas trop aimé.
Non. Et Tom Cruise fait également campagne en Europe. Son but, faire reconnaître la scientologie comme religion. Il aurait d'ailleurs fait pression sur Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur.
Waouh.
Ouais. Selon d'anciens scientologues, Tom Cruise aurait essayé de convertir de nombreuses célébrités. On parle du couple Beckham, on parle également de Will Smith, même s'il n'a jamais confirmé. Depuis ces dernières polémiques, l'acteur a décidé de faire profil bas, du moins publiquement, car il est toujours un membre très très actif de la scientologie.
Ouais, alors on va pas revenir beaucoup sur Will Smith, mais je vous invite à écouter l'épisode qu'on a tourné il y a quelques semaines avec Marie, où on parle vraiment beaucoup du rapport entre Will Smith et la scientologie. Et effectivement, il a jamais confirmé, mais on sait très bien qu'il en fait partie.
Il y a pas de doute.
Ouais. Merci Elisa. Et l'autre personne proéminente de la scientologie, c'est bien sûr son fondateur, L. Ron Hubbard, le L étant Lafayette. Marie, raconte-nous l'histoire de cet homme.
Alors, l'histoire de cet homme, c'est un destin américain en fait. Ron Hubbard, il est né en 1911 dans le Nebraska. Alors, si vous voyez l'Amérique, c'est en plein milieu et il est né dans un trou paumé du Nebraska. Et il a passé une partie de son enfance dans un ranch dans le Montana. Donc vraiment, c'est un vrai Américain quoi. Son père est dans la marine il est basé en Asie plusieurs fois et Ron, le petit Ron, lui rend visite. Et il continue ses voyages et il va jusqu'en Chine où il va dans un monastère où il regarde des moines en train de méditer pendant des semaines. Voilà, il a témoigné de ça après, donc il est déjà marqué par cette expérience. En 1933, il se marie, il a un enfant l'année suivante et il se rend à Hollywood pour devenir scénariste et il commence à bosser pour des projets de la Columbia Pictures où il écrit des séries dont une qui s'appelle Les Secrets de l'île au trésor. Et surtout, sa principale activité, c'est qu'il écrit des nouvelles de science-fiction pour des magazines pulp. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la marine et là, alors là, c'est là où tout bascule. Il dit qu'il est blessé.
Oui, oui. J'adore cette histoire.
Il dit qu'il est blessé. Alors, il dit qu'il est blessé au nerf optique. Il dit qu'il est blessé à la hanche. Il dit qu'il est blessé à la jambe. Que tous ses proches l'ont abandonné. Qu'il n'a plus d'amis. Et qu'il est bloqué dans un hôpital en Californie. Qu'il n'a personne pour lui. Et là, d'un coup, il va trouver en lui-même la force de s'auto-guérir grâce aux préceptes de la scientologie, qui n'est pas encore la scientologie, mais qui va le devenir. Et donc, grâce à ça, il recouvre la vue. Il se remet à marcher. Sauf qu'au final, des années plus tard, on va se rendre compte qu'il n'a jamais été blessé en fait.
Oui, que la seule chose qu'il a chopé sur le front, c'est une conjonctivite.
Ça fait mal aux yeux, on peut le comprendre, mais je pense pas que ce soit grâce au précepte de la scientologie qu'il a été guéri. Mais enfin bon, il a aussi dit qu'il avait été déclaré mort deux fois officiellement, sauf que apparemment c'est pas
un vrai bon auteur de science-fiction.
Oui, voilà, exactement, tu crois pas si bien dire. Et dont une fois, j'adore cette anecdote, en fait il était chez le médecin pour une opération des dents et il a été placé sous anesthésie. Et pendant qu'il était sous anesthésie, il pense qu'il est mort, que son âme est montée au paradis et que là lui a été révélé le secret de l'existence. Et quand il s'est réveillé de son anesthésie parce qu'il n'était pas mort, d'un coup, il avait la clé à tout quoi. Et ça a été un moment hyper fondateur pour lui et il a même écrit un manuscrit qui s'appelle Excalibur qui n'a jamais été publié. Et selon lui, ce manuscrit était tellement renversant et choquant qu'il y a un mec qui l'a lu un jour et qui s'est défenestré après l'avoir lu parce qu'il était tellement remué voilà. Par ce qu'il avait lu. Quoi. Et il a aussi dit que les Russes avaient essayé de s'emparer du manuscrit. Donc voilà, on est dans un délire vraiment, c'est assez puissant. Donc, quand, une fois qu'il a été guéri, ressuscité, tout ça, son mariage se termine, son premier mariage, et il s'installe à Pasadena, donc c'est une banlieue de Los Angeles, une banlieue très chic, et il vit en coloc avec un ingénieur de l'aérospatial qui appartient à une société secrète de magie noire et qui organise des réunions.
Comment les trouver, les colocs, ouais, voilà.
Et qui organise des réunions de rituels de, je cite, « magic sex », donc de sexe magique, je ne sais pas exactement, okay. C'est assez c'est surprenant. Alors aujourd'hui, la scientologie explique cette partie de la vie de Ron Hubbard en disant qu'en fait, il avait été missionné par la marine américaine pour s'infiltrer dans l'organisation de magie noire, et ils disent que c'est d'ailleurs lui qui est responsable du démantèlement de la magie noire aux États-Unis. Rien que ça.
Eh ben.
Finalement, il quitte la coloc, il s'installe à Los Angeles et il continue en parallèle à écrire des histoires de science-fiction, mais surtout, en 1950, il écrit et publie Dianétique, dont tu vas parler, Elodie, mais qui est le livre fondateur de la scientologie où il étale toutes ses théories. Et en 1954, il fonde l'Église de la scientologie. Et alors, ce que je préfère, moi, ma période préférée, c'est en 1966. Vas-y. Il s'embarque en mer. Et ça, c'est un gros truc dans la scientologie. Ils adorent les bateaux.
Oui. Sea Organization.
Voilà. Et donc, ça vient de là, en fait. Il s'embarque en mer avec un groupe de scientologues et il parcourt les mers et surtout, ils vont en Méditerranée pour essayer de trouver des trésors qu'il avait cachés dans ses précédentes vies. Et alors, ça, la scientologie.
Et les gens le suivent, en fait.
Oui. Et ça, la scientologie le dément, mais il y a des anciens scientologues qui ont témoigné et qui ont dit qu'ils étaient dans ces voyages en bateau, ouais. Et qui disaient, vous voyez sous cette croix, j'ai caché un trésor, genre en Grèce sur des îles grecques ou des choses comme ça. Enfin, bon,
et je crois qu'il a plus les bateaux de la scientologie n'ont plus le droit d'amarrer en Méditerranée.
Ah bah, je comprends pour toi. Et pourquoi s'ils souillaient, s'ils pillaient toutes les toutes les églises en disant c'est les trésors que j'ai cachés dans des vies précédentes. Et donc il y a la Sea Organization qui est créée, qui est en fait l'ordre religieux de la scientologie. Et ça vient de là, ça vient de cet amour de la mer. À ce moment-là, il commence quand même à y avoir une série de procès contre la scientologie parce que bon, ils soutirent énormément d'argent, ils font miroiter des choses absolument incroyables aux gens qui les suivent. Et du coup, il commence à y avoir beaucoup de procès. Et Ron Hubbard disparaît des radars. En 1980, alors certains pensent qu'il est mort, mais en fait non, il parcourt le nord-ouest américain en mobile.
Ça fait beaucoup rire Elisa, apparemment.
Mais en fait non, il parcourt le nord-ouest américain en mobile, voilà. Après avoir parcouru en mobile cette partie de l'Amérique, en 83, il s'installe dans une ferme à chevaux en Californie. Rien ne l'arrête, hein. Vraiment, chaque étape de sa vie est d'un rocambolesque. Finalement, il meurt en 86 d'un AVC à 74 ans. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que deux semaines plus tard, dans un rassemblement de scientologues, son successeur et ancien assistant David Miscavige, qui a 25 ans à l'époque, affirme que Bard n'est pas vraiment mort, qu'il a atteint un nouveau niveau de conscience et s'est tout simplement débarrassé de son enveloppe mortelle. Voilà.
Évidemment.
Et du coup, les scientologues pensent qu'un jour, il va revenir d'entre les morts. Et dans toutes les églises de la scientologie, il y a un bureau qui lui est dédié et qui l'attend au cas où il revienne demain. Il y a un bureau qui l'attend, il y a ses sandales qui sont placées devant la douche. Et dans la résidence officielle de la scientologie en Californie, il a même ses cigarettes sur un bureau et il change les draps tous les soirs
non,
de sa chambre.
Non.
Mais si, je vous jure, oh. Et ils lui mettent la table tous les soirs,
wow,
au cas où ils viennent dîner.
Fou.
Voilà, donc vraiment un destin.
Un dévouement.
Un destin.
Un culte coup, de la personne.
J'ai tiré toutes ces infos d'un long article qui a été écrit par, par le journaliste d'investigation américain Lawrence Wright, qui a écrit en fait le livre Going Clear, qui est un peu le livre de référence sur la scientologie.
Qui a donné lieu à un documentaire.
Voilà, et ce qu'il dit lui, c'est qu'en fait, beaucoup de gens, alors du côté scientologie, ils pensent que c'est l'homme le plus important qui a jamais existé. Et du côté gens à l'extérieur, il pense que c'est le plus grand arnaqueur de l'histoire. Et lui, il dit que c'est un peu entre les deux parce que c'était pas vraiment un arnaqueur, il croyait vraiment en son truc, quoi.
Ouais, ouais. Et alors justement, donc Going Clear, ça a été un documentaire qui est sorti au Festival de Sundance en 2015, qui a été acclamé et dans lequel des membres très haut placés de la scientologie racontent tout sans filtre. Et dedans, il y a des quotes de sa deuxième femme, donc qui s'appelle Sarah, qui ne témoigne pas, mais on lit, en fait, il lit ses témoignages. Et elle dit dedans que lui a dit « Pour t'enrichir, il faut avoir une religion ». Et ensuite, il était tellement à fond dedans qu'il s'est mis à y croire lui-même. Donc, effectivement... Je pense qu'au début, il a monté son entreprise. Après, je ne sais pas.
C'est un auteur de science-fiction. Donc,
voilà,
quand tu lis les trucs, c'est vraiment de la science-fiction. Quoi.
Mais on a l'impression qu'il y croit.
Elle débriefe.
J'aimerais que tout le monde se concentre, ça va durer 3 minutes, parce qu'on parle beaucoup de la scientologie, on sait tous que c'est très controversé, mais en fait, c'est quoi la scientologie? C'est quoi le principe des croyances de la scientologie? Donc, je vous ai vulgarisé ça à fond, s'il vous plaît, accrochez-vous, ça va pas être difficile, mais soyez concentrés. Donc, tout repose sur la Dianétique, on l'a dit, c'est le nom du livre. C'est le principe fondateur de la scientologie, ça vient du grec dia et nos, ça veut dire à travers l'âme. Alors, très important, tout ce qui va suivre n'a aucune valeur scientifique, cela n'a jamais été approuvé ni par la psychologie ni par la psychanalyse, tout sort de l'esprit très imaginatif et créatif de L. Ron Hubbard, comme on vient de le dire. Donc, selon ces théories, selon la Dianétique, dans chaque individu, il y a le mental analytique et le mental réactif. Le mental analytique, c'est votre esprit qui fonctionne de façon saine quand votre cerveau réagit à des stimuli de façon rationnelle et adaptée. Par exemple, si je te dis, Marie, on va au resto, tu me dis oui ou non, c'est une question très simple et tu me réponds de façon très simple à une question très simple. Mais quand vous êtes dans une situation plus complexe, stressante ou quand il y a de la peur, c'est le mental réactif qui prend le relais et vous réagissez mal avec la fuite, la négation, l'attaque. Si je te dis, Marie, mais t'es complètement conne, pourquoi t'as renversé ce verre, là tu vas pas me dire ah ben parce que j'ai perdu l'équilibre, ma main a trébuché, tu vas me dire je sais pas,
comment
pardon,
tu me parles,
voilà, voilà. Et tu auras une réaction qui sera soit de la fuite, soit de l'attaque, soit de la négation. J'espère que c'est assez clair pour l'instant.
Oui, pour l'instant ça va.
Merci. Et ensuite, selon la Dianétique, toujours, dès notre enfance et au cours de notre vie, dès qu'on est en échec ou qu'on subit un choc, et ça peut être vraiment des toutes petites choses, le mental réactif, donc ce mental-là, le deuxième, enregistre ce moment et le stocke dans notre cerveau, et ils appellent ça des engrammes. E-N-G-R-A-2-M-E. Alors, c'est aussi un terme qui a une valeur scientifique et qui ne veut pas dire la même chose. Et tous ces engrammes dormiraient en nous. Et quand on est triste, quand on est stressé, quand on est déprimé, ça va réveiller ces engrammes, ce qui va nous conduire à avoir des comportements dits aberrants et ça va nous gâcher la vie. Voilà.
J'ai peur parce que jusqu'ici, je suis assez d'accord.
Mais
bah bon.
Non, mais en fait, c'est un peu de la psychologie de comptoir.
Oui, c'est
oui,
sûr bah
qu'ils oui. nomment ça différemment et ils mettent
puis
ça
après,
tous les problèmes du monde. Voilà. Et donc, pour
ouais,
s'en libérer, ça nous amène à la partie scandaleuse. La scientologie fait des auditions. Donc vous êtes face à un autre scientologue, il va vous demander de raconter vos traumatismes, de vous confier sur des passages de votre vie dans les moindres détails, et par exemple vous allez raconter votre vie sexuelle, c'est des choses qu'on peut vous demander dans le but de vous libérer des énergies négatives. Et évidemment il y a l'électromètre, ce dont je vous parlais tout à l'heure, on vous pose des questions très intimes. Et c'est un peu comme une thérapie, sauf qu'en face de vous, bah, c'est pas un psychologue, c'est pas un professionnel de santé. Et d'ailleurs, la psychologie et la psychanalyse, elle est décriée par la scientologie. Donc, c'est ça la promesse de la scientologie. C'est une population apaisée, pas de guerre, pas de banditisme, pas de crime, puisque tout le monde réagit avec le mental analytique et pas le mental réactif qui est chassé par toutes ces auditions.
Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi la scientologie est opposée à la psychanalyse et à la psychologie et à la psychiatrie, c'est parce que quand la Dianétique est sortie en livre, tous les psys ont dit mais c'est quoi ces conneries quoi. Et Ron Hubbard l'a hyper mal pris et du coup il a transformé ça en c'est le démon en fait.
Contrairement à d'autres religions, on n'est pas sur un culte d'un dieu ou de plusieurs dieux. Mais par contre, ce qu'on ne dit jamais, mais qu'on a très bien compris, c'est qu'on est sur le culte de la personne de L. Ron Hubbard, clairement. Mais il n'est pas considéré comme le dieu. C'est plutôt les scientologues qui en ont fait une figure sacrée.
Mais quand il va revenir d'entre les morts,
quand là, il aura ses chaussons,
quand il mettra
sa cigarette. Et donc, ces auditions, elles sont filmées, elles sont enregistrées. Et on dit que plusieurs scientologues qui veulent s'en échapper ont très peur que ces auditions fuitent. Et on cite tout le temps le même exemple qui est John Travolta, qui aurait essayé de se défaire de la scientologie, mais qui est terrorisé à l'idée que ses enregistrements soient dévoilés, car il y évoquerait des relations homosexuelles, alors que John Travolta, publiquement, vit une vie hétérosexuelle. Et on a toujours dit qu'il ne pouvait pas partir et que du coup, il a choisi, plutôt que d'être malheureux et de rester, de rester et d'être heureux et de dire la scientologie, c'est génial. Il donne plein d'interviews dans lesquelles il dit que vraiment, c'est la solution à tous les problèmes du monde. Mais en tout cas, c'est des rumeurs persistantes. C'est que beaucoup de membres ont très, très peur que tout ce qu'ils ont raconté dans ces moments de faiblesse soit dévoilé au monde entier.
Je voulais juste compléter parce qu'il y a la dialectique.
Dianétique.
Il y a la Dianétique. Mais lors d'un procès, en fait, dans les années 80, il a été révélé un autre élément de la scientologie. Donc, quand... Oui.
Elle est devenue experte.
Tu n'es pas prête. Et le New York Times avait reproduit, en fait, le contenu des dossiers qui avaient été révélés lors du procès. Et en fait, dans la scientologie, il y a 8 niveaux d'accomplissement spirituel, donc dans l'apprentissage scientologue. Et c'est quand tu arrives au 3e niveau. Qu'on te révèle le secret, justement, de l'origine de ce comportement aberrant dont tu parlais.
Oui. Alors, vous n'êtes pas prêts. Moi, je sais. Mais alors, vous n'êtes pas prêts. Ils sont
Ah non, là, c'est vraiment... spéciaux. Bah, alors, il faut vraiment se souvenir que Ron Hubbard était un auteur de science-fiction.
Oui, c'est voilà. Vraiment ça.
Parce que, selon lui, une des causes majeures des problèmes de l'humanité a commencé il y a 75 millions d'années. À l'époque, la Terre s'appelait Tigiyash. Et elle faisait partie d'une confédération de 90 planètes, dirigée par un despote qui s'appelait Xenu. Alors le problème... Oui.
On dirait un dessin animé.
Oui, littéralement. Le problème, c'est qu'il y avait un gros problème de surpopulation sur la planète Terre. Et alors du coup, Xenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les gens, il les a mis sur des volcans. Et là, il a fait péter les volcans avec des bombes qui étaient hyper puissantes. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que ça a détruit les gens, mais ça a libéré leurs esprits.
Leurs âmes. Oui.
Et alors, ces âmes, elles s'appellent des tétans, je ne sais pas comment ça se prononce en français, ça s'écrit thetans, enfin T-H-E-T-A-N-S. Et ces tétans se sont réunis en noyau.
Rigole pas, Elisa, parce que t'es pleine de tétans.
Ouais, voilà. Se sont réunis en noyau par un espèce de masma d'alcool gelé. Et non, dans mais... ces tétans, si, c'est réel, attention. Dans ces tétans, on a implanté la graine du comportement aberrant, justement. Et en fait... cet étang, quand s'accroche à des êtres humains et quand les gens meurent, ils passent sur un autre être humain. Et en fait, c'est à cause d'eux. L'idée, c'est qu'on est tous infectés par cet étang.
J'entends téton, moi, depuis le début. Voilà. Désolé.
Qui sont des éléments extraterrestres et qui sont la source de tous nos problèmes et de toutes nos peurs. Et du coup, la grosse promesse de la scientologie, c'est à travers l'audition, on peut identifier quel tétan on a en nous et s'en débarrasser comme si on exorcisait nos démons. Quoi.
Ouais. Et en vrai, on en rigole et tout, mais dans le documentaire Going Clear, il y a une des nanas qui était assez haut placée, donc qui était arrivée à ce niveau 3, qui disait que quand on lui a appris ça, elle était terrorisée et qu'elle passait des heures et des heures et des heures à faire des auditions pour essayer de chasser ces âmes malades qu'elle pensait, enfin qu'on lui disait qu'elle avait en elle, et que du coup, elle n'y arrivait pas, parce que c'est complètement fictif, et qu'elle est tombée en dépression à cause de ça. Et elle en parle, elle a les larmes aux yeux, elle dit j'ai passé des années en dépression parce que j'essayais de chasser ces âmes malades en moi. Quoi.
Oui, mais c'est un cercle vicieux, parce que comme Exactement. Tu peux pas les chasser, tu continues perpétuellement à essayer de les chasser. Et comment tu essaies de les chasser? Grâce à la scientologie.
Exactement. John Travolta, c'est pas le seul à avoir tenté de s'échapper de la scientologie. Il y a Léa Remini qui a très bien réussi, l'actrice. Est-ce qu'on en reparle ou est-ce qu'on demande aux gens d'écouter l'épisode Will
Écoutez
Smith
l'épisode Will Smith. Écoutez elle l'épisode a fait des Will documentaires. C'est la meilleure pote de J-Lo.
Exactement.
Voilà.
Et aussi de Michel Visage.
Ah oui, c'est vrai. Oui. J'adore Michel
ouais,
Visage.
Grave. Il y a aussi la femme de David Miscavige qu'on n'a jamais revue.
Ah oui, elle a disparu depuis genre 2017, un truc comme ça.
Donc du numéro 1 de
la Apparemment, elle n'est pas morte parce que le FBI a quand même enquêté dessus parce que Léa Remini, justement, avait signalé sa disparition auprès du FBI. Et c'était au moment où elle a quitté la scientologie. Et ils avaient enquêté, ils avaient dit qu'elle était toujours en vie. Mais bon, elle n'a pas été vue en public depuis des années.
Depuis 2007, elle n'a jamais été...
2007.
Ah ouais.
Ah oui, mais c'était au moment du mariage de Tom Cruise et Cathy Hollis, parce que c'était à ce moment-là que Léa Remini avait posé la question. Après, il y a plein de nobodies qui ont essayé de s'échapper et qui se retrouvent sur un bateau. Quoi.
Voilà, il y en a qui se sont retrouvés séquestrés. Il y avait des camps un peu de remise à niveau de ta foi quoi, pour savoir si t'étais toujours assez croyant. Enfin, il y a des choses.
Ah oui, non, mais il y a des dérives, c'est vraiment horrible.
Et il y a aussi des gens qui s'en échappaient, ont forcé toute leur famille, parce qu'évidemment, quand t'es scientologue, t'es pas isolé. C'est toute ta famille, tous tes amis, ce ne sont que des scientologues. Il y en avait qui réussissaient à couper entièrement et ont forcé leur famille à ne plus leur parler du tout. Ils choisissent quand même de se couper de leur famille parce qu'ils savent que c'est trop compliqué pour eux de rester dans la scientologie. Et d'ailleurs, la scientologie demande à ses membres, enfin, donne l'ordre aux membres de ne jamais aller rien lire, rien regarder sur Internet. Parce qu'ils disent, ils ne propagent que de la fake news. Ça nous rappelle un peu le discours de Donald Trump. C'est vraiment ça. Tu dis en permanence à tes adeptes, ne lisez pas, ils nous détestent, ils sont contre nous, ils ne savent pas pas, ils n'ont pas notre savoir, n'allez pas lire. Et dans le documentaire, on voit des gens qui racontent ça et qui disent, et dès que je suis sortie, dès que j'ai commencé à avoir du recul, je suis allée lire et je me suis dit, mais toutes ces informations sont là, elles étaient à ma disposition et je ne m'en rendais pas compte.
Mais c'est souvent, c'est pareil avec QAnon ou des trucs comme ça de conspirationnistes. Enfin, c'est une fois que tu comprends, que tu vois en fait que tout était là, toutes les infos étaient là, mais tu les as jamais lues, quoi.
On a parlé de Katie Holmes, justement, les divorces entre scientologues. Quand la cause, en l'occurrence, c'est que l'un des deux veut quitter la secte, c'est toujours très compliqué, Elisa.
Oui, alors généralement, divorcer, c'est pas une partie de plaisir. Mais alors, divorcer ou se séparer d'un membre de la scientologie, c'est carrément l'enfer. Nicole Kidman peut en témoigner. D'ailleurs, depuis son divorce avec Tom Cruise, tu le disais, elle entretient des rapports compliqués avec ses enfants. Elle n'a pas été invitée.
Elle les voit plus.
Non, elle n'a pas été invitée au mariage de Connor. Son divorce a été commandité par la secte.
Je peux en parler. Mais tu vas en parler ?
Oui, s'il te plaît.
Vas-y.
Il y a un ancien scientologue qui a témoigné et raconté avoir été chargé de faciliter la séparation entre les deux acteurs. La scientologie reprochait deux choses à l'actrice. Un, d'être catholique. Deux, d'avoir un père psychologue.
Exactement.
Oh
ouais, son père est psychologue et est réputé en Australie.
Donc ça ne passait pas. La secte a mené une véritable campagne contre Kidman pour mettre fin au mariage. Ils l'ont par exemple fait suivre ou mis sur écoute.
Alors, précision. Tom Cruise s'est confié à ce fameux membre qui était chargé de les faire divorcer. Il lui a dit, elle est jalouse. En fait, il revenait du tournage de Eyes Wide Shut. Et donc, pendant ce tournage, comme ils ont tourné ensemble, Nicole a réussi à lui faire un peu couper les ponts avec la scientologie pendant quelques semaines, pendant les semaines du tournage. Tom Cruise est revenu en disant « elle est hyper jalouse ». Et Tom Cruise a dit comme ça, mais vraiment à la volée, il faudrait la mettre sur écoute. Et le mec a retenu cette information et ils sont allés installer chez eux
des micros,
exactement.
C'est comme ça que ça s'appelle.
Pour tout écouter. Et ils ont écouté toutes ces conversations. Donc, ils ont vraiment tout fait pour qu'ils divorcent.
Bah, pareil avec Katie Holmes, par exemple, qui a rusé pour s'échapper avec sa fille. Quelques semaines avant les 50 ans de l'acteur, elle demande le divorce. Mais elle avait tout prévu. Elle a acheté un appartement à New York pour s'installer avec souris. Elle a acheté même plusieurs téléphones portables pour planifier son départ et pour ne pas être pistée. Et elle a même demandé des conseils à Nicole Kidman. Mission réussie et non impossible.
Trop bien, c'est comme le club des ex, quoi. Mais avec
ça. En plus, elle obtient la garde exclusive de sa fille et une bonne pension alimentaire en contrepartie. Elle signe une clause lui interdisant de fréquenter publiquement un homme durant les 5 prochaines années afin de ne pas embarrasser son ex. On a de l'ego quand on est un peu...
Ouais, mais elle a signé, ce qui veut bien dire que t'es vraiment prêt à tout.
Oui.
Après,
elle voulait partir.
C'est pas une clause non plus insurmontable.
Non.
Je veux dire, suffit de pas être en public avec ton mec. Bon, après, évidemment, t'es Katie Holmes, t'es photographié tout le temps.
Ouais, mais tu vois, elle a gardé sa relation avec Jamie Foxx.
Pendant hyper longtemps.
On le savait, ouais. Mais il y avait des rumeurs.
Mais il n'y a pas de photos. Ouais.
Voilà.
Et ensuite,
ils sont restés très longtemps. Et à partir du moment où ils ont
été en public,
ils se sont séparés. Exactement.
Peut-être que c'est...
J'adorais ce couple.
Moi, enfin, j'aurais aimé les voir plus. J'adorais
l'idée de ce couple.
C'est à cause de la Sciento. Alors si pour Katie Holmes, l'histoire se termine plutôt bien, on en a parlé tout à l'heure, pour Shelley Miskovich, c'est comme ça qu'on prononce, le mystère plane toujours. Pendant longtemps, donc on la resitue, c'est la femme ou l'ex-femme, on n'en sait rien.
Toujours la femme, non ?
Bah, y a des rumeurs comme quoi ? Il y a plusieurs rumeurs à son sujet. La première, c'est qu'elle serait décédée. Selon les infos de Marie, non.
Ah, mais après, les infos, elles datent, hein, parce que c'est le FBI avait enquêté juste après la plainte de Léa Rimini, donc ça se trouve, depuis, elle est morte. Hein.
Pardon.
Non mais rigole pas.
C'est pas drôle du tout. Et d'autres disent que elle a été bannie, elle est retenue contre sa volonté.
Bah, comme la femme Sarah, la femme de L. Ron Hubbard, qui était retenue dans une famille, je sais plus où, loin de sa fille.
Mais quel enfer.
Ah ouais, c'est un cauchemar.
Tout ce qu'on sait, c'est que donc l'actrice Léa Rimini, ancienne scientologue, a signalé sa disparition en 2013. Le FBI dit qu'elle est vivante, mais depuis 2007, on ne l'a pas vue en fait.
On va parler du cas d'une star en particulier pour qui être membre de la scientologie ne semble pas être un frein à sa carrière, puisqu'elle a été dans Mad Men, elle a eu le rôle principal de la servante écarlate, et là elle est à l'affiche d'une nouvelle série. Il s'agit d'Elizabeth Moss. Marie, tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors non seulement c'est pas un frein dans la carrière d'Elizabeth Moss, mais on va le voir, ça a carrément contribué à sa carrière pendant des années, parce que la scientologie est omniprésente à Hollywood, ou en tout cas très très bien connectée. Donc Elizabeth Moss, elle a été élevée scientologue, en fait ses parents sont scientologues, et son père faisait partie d'un groupe de jazz avec Ron Miscavige, le père de David, le leader de la scientologie. Et les débuts dans l'industrie d'Elizabeth Moss, c'était lié à la scientologie, puisqu'elle a sa toute première apparition en public public, ça a été dans un clip de musique d'un célèbre musicien de jazz qui était scientologue. Et dans ce clip, elle a 5 ans et elle danse. Et c'était passé sur MTV en 88.
Attends, je me permets juste de dire un truc, c'est que dans le documentaire, on voit des groupes de pop scientologues qui composent des tubes à la gloire de la scientologie. Je vous invite à regarder sur YouTube, c'est extrêmement drôle. Pardon, vas-y, reprends.
Et du coup, en fait, c'était le père de Moss qui était le manager de ce joueur de jazz. Okay. Donc, enfin, tout est lié, quoi. Mais quand elle a 8 ans, selon les données de la scientologie qui sont publiques, quand elle a 8 ans, elle a pris le cours Hubbard Key of Life, donc les clés de la vie selon Ron Hubbard, quoi. Et plus tard, elle a eu un diplôme aussi de scientologie. Et son manager depuis l'âge de 10 ans, alors attention, son manager, c'est sa manager plutôt, c'est Gay Ribisi. Et Ribisi, si
la famille de Giovanni ?
Ben oui, oh c'est la maman. C'est la maman de Giovanni Ribisi.
Giovanni Ribisi, qui joue dans Friends. Voilà, c'est celui qui joue Frank,
le frère de Phoebe dans Friends. Et alors, donc, la maman de Giovanni, c'est la manager depuis qu'elle a 10 ans, c'est toujours sa manager aujourd'hui, d'Elizabeth Moss.
Ah ouais.
Et oui, quand elle a joué, ça va plus loin, attention. Quand elle a joué dans Her Smell, ce qui est un rôle pour lequel elle joue une chanteuse de rock, en fait, une rock star, Elizabeth Moss, c'est un film indé, elle a demandé conseil à Beck. Qui est un chanteur, enfin, je pense que tout le monde connaît Beck, qui a été lié à la scientologie pendant longtemps et qui était marié à Marissa Ribisi, la sœur de Giovanni.
Ah ouais.
Tout est lié.
Petit milieu, hein.
Ouais.
Et oui. On sait aussi qu'en 2017, Elizabeth Moss a fait un traitement détox et purification de la scientologie avec une exposition prolongée à la chaleur et où elle a pris beaucoup, beaucoup de vitamine B3. Voilà. donc ça, c'est pour montrer que quand même, en fait, on pourrait croire qu'elle a juste été élevée dans le milieu mais qu'elle n'est pas très investie. Mais en fait, elle l'est investie dans la scientologie. À chaque fois qu'on lui pose des questions, parce qu'on lui en a posé beaucoup, forcément, parce qu'Elizabeth Moss a littéralement joué dans La Servante écarlate où elle joue le rôle de quelqu'un qui est opprimé.
Oui.
Par une secte religieuse qui est homophobe comme la scientologie a été accusée d'être, une secte religieuse qui maltraite les gens qui ne croient pas en ses préceptes. Et en fait, du coup, on lui a demandé à plusieurs reprises si elle trouvait pas ça contradictoire, et à chaque fois son truc à elle, c'est de dire mais pas du tout, la scientologie c'est pas du tout ça, on est très accueillant, au contraire, il faut se renseigner.
Alors oui, parce que quand tu vas devant les centres de scientologie, ils te disent accueil du public tous les jours, enfin vraiment ils ouvrent leurs portes.
Oui, mais du coup, elle dit tout le temps, par exemple, dans une interview du Daily Beast en 2019, on lui avait dit, mais la scientologie, il y a eu des écrits homophobes et tout, elle répond toujours à côté, elle contourne le truc en citant la liberté d'expression et en disant qu'elle est une grande féministe et une grande supportrice des droits LGBTQ. Quand on lui a demandé ce qu'elle avait appris de la scientologie, c'est dans une interview très récente qui est sortie il y a quelques semaines, donc en 2022, en avril 2022 sur le New Yorker. C'est une des seules fois où elle a parlé ouvertement de la scientologie et on lui a demandé ce qu'elle avait appris de la scientologie, ce que ça lui avait apporté. Elle dit qu'elle a appris la communication, que c'était très... enfin, sa façon de communiquer qui est très utile dans son métier, ça lui vient de là, c'est ce qu'elle a appris dans son enfance. Et il y a un ancien scientologue qui a dit, bon, c'est typique de la scientologie de faire de la com sur justement la communication dans la scientologie et le fait d'apprendre ça, quoi. Mais ce qui est intéressant, petite anecdote quand même, parce que bon, elle évite d'être mêlée à tous ces scandales et elle arrive toujours à détourner l'attention, même si les gens le savent et que ça a été mentionné plusieurs fois. Mais apparemment, en 2017, elle était à une remise de prix de la Television Association Critics Awards, donc des critiques de télévision américains. Et Léa Rimini, pendant cette remise des prix, a reçu un prix pour son documentaire contre la scientologie. Oh. Et pendant le discours de Léa Rimini, Elizabeth Moss aurait quitté la salle. Et en fait, Elizabeth Moss, dans l'article du New Yorker, on lui a demandé pourquoi. Si c'était vrai, elle a dit « j'ai juste eu besoin d'aller faire pipi ». Mais ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, oui. Je pense qu'en l'occurrence, à mon avis, il y avait Anguille Souroche. Surtout, scientologie Souroche. donc voilà.
Merci Marie. Et dans la plus pure tradition de Elle Débrief, cette semaine, c'est Elisa qui nous a préparé un quiz.
Elle débrief. Alors, j'ai décidé de vous faire un vrai ou faux sur la scianto. Marie, je pense qu'elle va t'exploser parce que.
Marie, elle est experte.
Ouais. Donc, on va commencer par toi, Hello.
Okay.
Je te pose une question, ça sera au tour de Marie après. La troisième, c'est une question de rapidité.
Okay.
Première question, vrai ou faux. L'infidélité est tolérée et même encouragée par la scianto.
Faux.
Ça m'énerve.
Faux, parce qu'il y a un guide de bien savoir vivre en couple, comment ne pas divorcer et tout.
Alors, faux,
Moi, j'aurais pas su répondre, donc tu vois, t'es
plus experte
que moi.
Ah, j'aurais dû inverser.
Ah, désolé.
Selon... Oh, parce que moi, j'adore quand vous perdez. Alors, selon les scientologues, l'infidélité pourrait réduire l'espérance de vie.
Rien que ça. T'imagines, on serait tous morts à 20 ans, quoi. Enfin, non, moi, je suis très fidèle.
moi, je serais toujours en vie. Alors, je cite, « Si vous n'insistez pas pour que votre partenaire vous soit fidèle, vous vous exposez à certaines maladies qui pourraient être incurables. » En vrai, il y a une certaine logique.
Oui, mais enfin bon...
J'essaie de les défendre,
bien,
quoi. Qu'est-ce qui
bien.
M'arrive? Bon, alors, Marie, vrai ou faux? Il serait dangereux de côtoyer des gens lents. Lents, comprenez, longue à la détente.
Vrai.
Oui, c'est vrai. Pour eux, côtoyer des personnes, je cite, c'est horrible, qui ont raté leur vie parce qu'elles ne savaient pas étudier, impacterait notre potentiel de survie. C'est un peu dangereux de côtoyer des gens qui sont lents dans un monde qui vit à 100 à l'heure.
Et pourtant, si vous avez écouté l'épisode de Will Smith, enfin sur Will Smith, vous savez que l'école des scientologues, c'est un rythme très lent.
Oui, voilà, ça n'encourage pas la rapidité.
À l'écouter.
Alors, troisième question, c'est une question de rapidité.
Okay.
Puisque je rappelle, c'est pas très bien d'être lent. Alors, quel acteur français a déclaré « J'assume, à une époque où j'allais mal, la scientologie m'a permis de me comprendre moi-même et de connaître, avec ma vraie famille, une harmonie que je n'avais pas. »
David Charvet.
Non.
Je sais pas. Acteur français. Je sais pas d'où c'est sorti.
Il est français et il est acteur. Hein. Non.
Alors, Jed, acteur français.
De seconde zone.
Oui, voilà. De série.
De série,
de série Mais de série française.
Série française.
Thomas Sisley.
Non.
Laurent Ournac.
Non.
Ah putain, je saurais même pas te dire en fait.
Quoi?
C'est de cette Akabila.
Ouais.
Série TF1.
Oui.
Ah bah je sais pas,
série
je connais
TF1.
Pas.
Série TF1. Un mec qui a moins de 30 ans.
Non, un peu plus je pense.
Mon âge.
Ouais. Non, même plus je pense.
Putain, la rapidité.
Jean Pascal.
Non, ah bah non, alors non.
Je sais pas.
Xavier Deluc.
Je sais pas qui
je
c'est.
Sais pas qui c'est.
Bah, je sais pas qui c'est.
C'est, mais évidemment que si.
Bah,
sa tête, vous allez. Moi non plus, je ne savais pas qui était Xavier Deluc. Mais si, c'est dans le mec dans Section de recherche.
J'ai jamais regardé.
J'ai jamais regardé non plus.
Ah non.
Mais c'est sûr que vous voyez sa tête.
Jamais regardé.
Bon bah en tout cas, Xavier Deluc est scientologue.
Ok, très bien.
on l'embrasse.
Merci Elisa. Elle débrief. On finit par le traditionnel courrier des lecteurs avec une question posée par Lydia M qui veut savoir si c'est vrai que Brad Pitt a failli être scientologue. Chère Lydia, alors oui et non. Dans les années 90, Brad Pitt a la vingtaine. Il est le nouveau sex-symbole d'Hollywood. Il a joué dans Thelma et Louise et à cette époque, il est en couple avec l'actrice Juliette Lewis qui est scientologue. Et elle va tout faire pour lui faire intégrer la secte, qui n'est pas une secte aux États-Unis, rappelons-le. Pendant 3 ans, il fréquentera la secte. Il aurait même effectué un rituel de purification, ce dont tu nous parlais, Marie, tout à l'heure. Et finalement, Brad Pitt décide de rompre à la fois avec la scientologie et avec sa compagne en 1993, et il ne remettra jamais les pieds au Celebrity Center de la Scientologie, heureusement.
Lydia, elle n'a pas écouté notre épisode sur Will Smith, hein. C'était une des questions.
C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief, et on vous remercie de l'avoir écouté. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode dédié à Will Smith, au cas où vous ne l'auriez pas compris, il y a plein de choses intéressantes et complémentaires à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de nous taguer, de vous abonner, de mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée, bref, d'adhérer à notre courant. N'oubliez pas d'acheter votre Elle en kiosque et de suivre le Festival de Cannes en live sur Elle.fr. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode très 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 spécial. Salut Elisa, salut Marie.
Salut.
Elle Débrief. Retrouvez tous les épisodes de Elle Débrief en ligne sur les plateformes.
Élodie Petit et Elisa Casson de Elle
décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.